petite condensée sur les chapeaux de roue. Vous pouvez m'excuser, j'ai eu un rhume monstrueux là, je vais essayer d'être à peu près audible. Bon, alors pour commencer, donc, pourquoi ce livre ? Donc, question traditionnelle. Bon, pour une fois, je vais remonter beaucoup plus loin que d'habitude. Donc, bon, quand j'avais 14 ou 15 ans, au lieu de perdre mon temps à faire mes devoirs comme Chantal ou Emeline, je lisais la bibliothèque de mon grand-père. Et dans la bibliothèque de mon grand-père, il y avait notamment un gros livre en allemand qui était consacré à l'humour allemand. Donc c'est un livre qui a été publié en 1929, sauf erreur, et dont l'auteur, bon, en passant, était le grand spécialiste de Jérôme Bosch en Allemagne dans les années 1920-1930. Alors dans ce livre, il y avait un texte qui était intitulé Ein Lügenmärchen. Bon, alors qu'est-ce que c'est Ein Lügenmärchen ? Bon, c'est littéralement un conte mensonger, si on veut. Alors, ça m'a intrigué parce que ce texte était attribué à un auteur alsacien, enfin, qu'on ne nommait pas, quoi, un auteur anonyme, si on peut dire ça comme ça, alsacien. Et par la suite, bon, je me suis aperçu que, bon, à chaque fois que je tombais sur un Lügenmärchen, c'était attribué à un auteur alsacien. Bon, un jour, je suis tombé sur un almanach des années 1930 qui avait été publié à Stettin, comme ça s'appelait à l'époque, et évidemment, paf, c'était attribué à un auteur alsacien. Alors bon, ça m'a beaucoup intrigué, tout ça. Et alors, le contenu même de ce texte était très, très, très passionnant et très intriguant, parce qu'il y avait un absurde lié au trop-plein. Il y avait tout et son contraire, pour le dire comme ça, dans ce texte. Et comme il y avait tout et son contraire, c'était une manière d'effacer les repères, le temps, l'espace. Dans ce texte, il y avait aussi des images qui renvoyaient directement à la mélancolie. Ce sont des métaphores qui renvoyaient à la mélancolie, notamment une scène où le héros, entre guillemets, tombe dans un luth. Et le luth, bon, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Holbein, ça s'appelle Les Ambassadeurs, on voit un luth un peu au second plan, et quand on regarde vraiment bien, on voit que les cordes du luth sont cassées. Bon, c'est un symbole de mélancolie assez répandu à la Renaissance. Bien. Alors, à partir de cette lecture, donc par la suite, bon, j'ai trouvé tous ces livres que certains ont lus aussi, qu'on trouve en général dans les bouquineries ou qui nous sont offerts par certains anciens, comme Gustave Voigt, que vous avez connu, certains d'entre vous ont connu, ou lors de ventes quelconques. Bon, voilà. Et trouvant ces livres-là, bon, il y avait quelque chose qui était parfaitement évident. Au bout d'un certain temps, pour moi, c'est que, bon, j'ai presque envie de dire que ce qu'on pourrait appeler la culture alsacienne se donnait dans ces livres-là, bien plus que n'importe où d'autre. C'était pas dans le folklore. Bon, c'était pas tellement non plus dans les très grands auteurs comme Chiclet, Stadler, etc. Mais il y a vraiment une cohérence très évidente de quelque chose comme une totalité culturelle, disons. Et par la suite, aussi, donc, je me suis aperçu, je ne pense pas que c'est dû à mon esprit trop fécond, mais que dans ces livres-là, il y a une évolution de l'esprit et surtout de la conscience de soi alsacienne, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire le regard que les Alsaciens portent sur eux, et sans quoi, d'ailleurs, il n'y a pas de culture, en fait. Alors, je me suis souvenu, en rédigeant ce petit texte-là, que j'ai écrit d'ailleurs pour Pierre Klein un article vers 2006 où je disais que j'affirmais qu'il n'existe pas de culture alsacienne. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de, de regard réflexif sur les éléments qu'on peut appeler immanents de cette culture, les éléments qu'on voit immédiatement. Enfin, quand on parle de l'esprit satirique, comment on appelle ça, du côté bon vivant des Alsaciens, bon, c'est ce qui saute, j'allais dire, à la figure, enfin au regard tout de suite. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement superficiels. Bon. Donc voilà, donc lisant toujours ces œuvres-là dont nous allons parler là tout de suite, je me suis aperçu que ce qui était vraiment significatif, c'était non pas de suivre un fil rouge comme Ariane, ni un fil rose, mais un fil noir, et que l'expression des différents types de tristesse dans la littérature alsacienne était vraiment significatif et permettait vraiment de comprendre quelque chose des profondeurs de l'âme, entre guillemets, de la psyché alsacienne. Donc ça a été ça, l'intention de ce livre-là, que j'ai déjà écrit il y a pas mal de temps, d'ailleurs. Bon. Alors, il y a une hypothèse de travail là-dedans, c'est que, en quelque sorte, je fais un peu comme Rousseau, dans le contrat social, j'ôte les plus et les moins. C'est-à-dire que je parle pratiquement pas de Schickler, de Stackler, de Flaque, et je parle pas non plus d'écrivains qui n'ont de signification que folklorique ou anecdotique ou pittoresque. Bon. Voilà, donc, alors on va faire bon survoler simplement ce livre, puisqu'il y a beaucoup de matière et c'est pas vraiment facile, mais bon, voilà.
Die Historie und Legende von dem treffentlichen und weit erfahrenen Ritter, Herrn Polycarpen von Kyrlarissa, genannt der Finkenritter, wie der dritthalbhundert Jahr, ehe er geboren ward, viel Land durchwandert und seltsame Dinge gesehen und zuletzt von seiner Mutter für tot liegen gefunden, aufgehoben und erst von Neuem geboren worden.
Alors, en fait, ce que j'ai dégagé dans ce livre, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la mauvaise conscience, ou plutôt la conscience malheureuse alsacienne, c'est-à-dire ce qu'on trouve chez Hegel, enfin, peu importe, c'est-à-dire le fait que le regard sur soi est toujours empêché par quelque chose, et il y a toujours une sorte de dissymétrie ou de déséquilibre entre la chose qu'on regarde, c'est-à-dire soi-même, et la conscience qu'on développe de soi-même. Et c'est ce qui apparaît avec une parfaite évidence dans ces œuvres-là. Bon, alors je lis le début là, donc. À la fin de notre parcours, le chevalier, donc, dont il est question ici, mourra à soi-même et renaîtra. Le temps du réel, la durée, disparaît. D'emblée, le Finkenritter, donc le chevalier au pinceau de ce texte, l'efface la durée, et avec lui, les repères temporels majeurs de son existence vécue. Il efface le temps et donc aussi les indices de la mémoire. Nier le temps du réel, n'est-ce pas toujours le fait de ceux qui ont une histoire, en savent le malheur et veulent l'oublier. L'Alsace, terre de la joie de vivre, de l'abondance, et l'Alsacien bon vivant, entre guillemets repu, amateur de joyeuses ripailles et de bon vin. Les apparences confirment très souvent cette image, ce cliché de notre chère Heimat et de ses habitants. Et ceux-ci aiment apparaître comme tels aux yeux du monde. Alors on se précipite par milliers vers de riches bourgs du vignoble ou de l'Unterwald, de l'outre-forêt, pour y admirer la chair débordante et débonnaire de Hans ou de Fritz. Et quel beau pays que cet Alsace au vert exubérant, aux fruits lourds de sucre, et d'alcool bachique. Comme il fait bon partager le plaisir épicurien des Alsaciens attablés, ceux qui chantent au Ladrio, quel beau jardin que l'Alsace. Mais voilà que les couleurs du festin s'estompent, et avec elles son relief. Étrangement, après que le temps a disparu, gommé dans l'éternité bachique des baies consacrées, le raisin, vient sournois le sentiment de l'insignifiance. Que font, que sont ces hommes qui rient et oublient le devenir du quotidien et la rupture dans la pérennité terrienne? Ils se mettent à disparaître en une bizarre béance. Ils sont là, bien là, mais qui sont-ils? Alors on sent bien que sous cette chape d'abondance, de sensualité et de rituel Gemütlichkeit se dissimule comme un malaise, une incertitude, l'angoisse de n'être rien et simultanément celle, tout aussi secrète, de ne jamais jouer assez bien son rôle. L'Alsacien, commence-t-on alors à comprendre, cache en soi une vraie mélancolie, peut-être l'une des plus profondes que puisse connaître un peuple. Mélancolique, le bon vivant alsacien, le fin gourmet, l'épicaurus attablé, qui en oublie le monde et le temps et la mort. Il faut y aller voir de plus près. Voyons l'ami Fritz, un symbole de belle allure, buveur et mangeur impénitent, joyeux compère, insoucieux de métaphysique, du lendemain et des imperfections de la société, de laquelle il profite d'ailleurs largement. Peut-on rêver plus alsacien, un rentier jovial, bonhomme, pour lequel le but même de l'existence est de jouir innocemment de ce que procure le bon Dieu, comme les bourguignons d'ailleurs. Et pourtant, et si cependant, on oublie bien des choses, en général, lorsqu'on lit le roman d'Erckmann Chatrian. Oublie souvent actif chez le lecteur alsacien. Mieux vaut vivre confortablement, selon l'image fritzienne consacrée, pense-t-il au fond de lui-même, tout au fond, que de remuer tout cela, n'est-ce pas? L'ombre, le refus, l'indétermination, la béance sous l'identité imaginaire et rassurante, le mal-être sans doute d'un peuple qui n'est pas et qui ne veut pas.
Relisons la première page de l'ami Fritz. Tout commence par un décès, celui de Zacharias, le père de Fritz, à Hüneburg. Immédiatement, on peut lire le passage suivant, très important pour la compréhension de tout Erckmann Chatrian et de l'obscure vacuité alsacienne. Fritz se dit avec l'Ecclésiaste: vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage à l'homme des travaux qu'il fait sur la terre? Une génération passe et l'autre vient. Le soleil se lève et se couche aujourd'hui comme hier. Le vent souffle au nord, puis il souffle au midi. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille de l'entendre. On oublie les choses passées, on oubliera celles qui viennent. Le mieux est de ne rien faire pour n'avoir rien à se reprocher. Ces paroles de Coëlette sont celles d'un mélancolique, et l'œuvre d'Erckmann tout entière est placée sous le signe de Saturne. Une mort, la mort du père, les mots du sage hébreu. Il n'est sans doute pas d'indice plus exactement expressif du soubassement noir, splinesque de l'épicurisme et surtout de l'épicurisme alsacien. Fritz en vient alors à formuler sa future règle de conduite, sa Lebensphilosophie. Tu fumeras des pipes, tu videras des chopes et tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tâche d'avoir toujours la tête froide, le ventre libre et les pieds chauds. C'est le précepte de la sagesse. Et surtout, évite ces trois choses, de devenir trop gras, de prendre des actions individuelles et de te marier. Le ventre libre pour mieux le remplir, toujours. Puis l'Alsacien, encore jeune, ajoute, ce qui montre encore mieux quels liens fondamentaux nous ici, jouissance de la bonne chair et angoisse de la mort, cette mort qui vient d'être observée sur le père et qui suscite dans les profondeurs de cet Alsacien l'anxiété de ne pas être. Le père est mort, c'est-à-dire aussi bien la lignée ancestrale, par conséquent la tradition et l'identité. Que peux-tu désirer de plus quand le roi Salomon déclare lui-même que l'accident qui frappe l'homme et celui qui frappe la bête sont un seul et même accident, que la mort de l'un est la même mort que celle de l'autre, et qu'ils ont tous deux le même souffle? Puisqu'il en est ainsi, tâchons au moins de profiter de notre souffle pendant qu'il nous est permis de souffler. Expression admirable d'une vision du monde bien alsacienne, ou tout au moins fort répandue dans notre pays. Vanité des vanités. À la fin du XIXe siècle déjà, l'un des professeurs d'Albert Schweitzer, Theobald Ziegler,
essaye de montrer que les paroles de Coëlette témoignent d'une influence de l'épicurisme au sens strict, donc hellénique, sur l'auteur juif. Et bien sûr, il faut considérer ici l'épicurisme comme une notion clé, tout comme l'ecclésiaste, Fritz, et à travers lui l'alsacien idéal typique, éprouve la vanité de toute chose terrestre, vanité de la nature, vanité des œuvres humaines, vanité de l'histoire qui se fait et où l'humain agit, mais qui se partage entre ces deux océans où l'homme est jeté, l'alsacien peut-être davantage que d'autres. Ce sentiment de la contingence, voire de l'absurdité de toute chose, peut occasionner le rire comique, grotesque, ou bien humour noir, ou bien encore rire truculent, rabelaisien. Rappelons ici que le grand Johannes Fichat, génial créateur de mots, marailleur quasi post-moderne de la langue alémanique allemande, précieux ethnographe surabondant de l'Alsace, lui dont l'alsacianité littéraire a fini de s'éveiller à la lecture de Rabelais, qu'il a traduit et décuplé en puissance, arrosant ses germes de vin blanc en terre d'Alsace. Mais le pessimisme épicurien peut aussi se traduire en sa noirceur spontanée, ou bien encore s'incarner en symbole. Ainsi, les malheurs de l'histoire, en Alsace généralement subis et non agis, font éclore de belles œuvres faites de vacuité spirituelle, de sensualité et de désespoir entrelacés, dissimulés chacun par l'autre au regard superficiel, n'en laissant paraître que ce qui donne l'avantage dans l'instant présent. Une expression de cet épicurisme, qui est celui aussi bien de Fichart que de Fritz Kobus, se donne dans le genre pictural des vanités. On connaît celle robuste de Baldungrin, des cinq sens ou l'été, ou celle plus fine, froide, comme la semence noire de Belzébuth de Sébastien Stoskopf. Ce dernier peignait durant l'horrible guerre de 30 ans, époque de massacres apocalyptiques mais intermittents, et laissant place parmi la population à de nombreux débordements proprement bachiques. La première de ces vanités, celle de 1641, la grande vanité, représente au centre un crâne. Et autour de ce dernier, on peut voir divers symboles des œuvres humaines, un calice d'or, des livres, des armes. Sur un écriteau bien lisible, cette inscription. Kunst, Reichtum, Macht und Kühnheit stirbet, dies Welt und all ihr Tun verdirbet. Ein ewiges kommt nach dieser Zeit, ihr Toren, fliehet die Eitelkeit.